Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, nous allons faire deux lectures. La première, elle se trouve dans l'Épître aux Romains, s'il vous plaît. Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Voilà, et au verset 28. Alors, Romains. C'est un texte bien connu hein, pour les lecteurs et attentifs, réguliers de l'Écriture sainte. Ce texte, il est plus que connu. Nous savons, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera, Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le deuxième texte, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Alors, on va tourner quelques pages en arrière. Chapitre 13, verset 7. Versets 5 à 7, voilà. Ensuite, Jésus versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt, tu le comprendras vite. » On pourrait traduire de cette manière. Le message que nous voulons aborder ce matin, c'est, si vous le permettez de vous le dire, c'est un message pour tous ceux qui ont échoué. Tous ceux qui ont entrepris et qui ne sont pas parvenus à la réalisation, peut-être, de leur projet, de leur rêve. Ce sont, pourrait-on ajouter, les déçus de la vie, peut-être même les déçus de Dieu, même pour des chrétiens. Ceux qui pleurent sur leurs illusions perdues. Alors, c'est le sens que nous voulons donner à cette méditation que nous allons entreprendre. D'abord, il y a une question. Cette question pourrait se résumer de cette manière. Comment voir dans la nuit de notre existence? Il y a des jours radieux, lumineux, de joie, mais il y a quelquefois des situations où vraiment, eh bien, il nous faut traverser des moments extrêmement difficiles et le sentiment qui est le nôtre, c'est que nous sommes dans la nuit. La nuit autour de nous et la nuit en nous. Ça, c'est la question. Et la réponse serait « Je ne comprends plus, Seigneur, je t'ai prié, je t'ai demandé, je me suis attendu à toi, je m'attends encore à toi, mais je ne comprends pas, je ne comprends plus. » Il y a quelqu'un qui a fait cette citation que j'aime beaucoup, qui est celle-ci, je vous la transmets. Cette personne écrit « Personne n'est obligé de s'asseoir dehors dans la nuit et dans le noir. » Mais si nous voulons regarder les étoiles, nous verrons que ce n'est possible que dans le noir. Alors c'est vrai que ça résume un petit peu ce que nous allons dire ce matin. Et je voudrais vous donner le sens d'un mot que nous prononçons tous, probablement des dizaines et des dizaines de fois, voire même peut-être dans la journée. C'est le mot « pourquoi ». Pourquoi ? Alors, ça va du questionnement simple jusqu'à véritablement, l'écrit pathétique. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Je voudrais vous dire que ce mot est un adverbe qui interroge. Nous l'utilisons dans notre langage et je pense que de toute façon dans toutes les langues de ce monde, il y a au moins ce mot « pourquoi ». Et ce mot interroge donc là où les buts, c'est-à-dire le pourquoi, les causes et les buts. Cela également interroge la raison, le sens et les intentions. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi tu permets ? Dans quel but tu permets cette situation pour moi ? Quelles sont les causes ? Parce que quelquefois, nous ne connaissons ni les causes ni les buts. Et nous sommes là dans le noir. Et nous sommes à attendre une hypothétique étoile qui va briller au firmament, alors que nous sommes complètement dans la nuit. Et c'est bien des questions qui occupent finalement l'âme humaine. Vous vous souvenez, nous l'avons lu il y a un instant, Jésus dit à ses disciples, et particulièrement à Pierre, il dira « Mais ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » En d'autres termes, Jésus voulait rassurer son apôtre en lui disant « Bien écoute, la seule chose que je te demande, c'est de me faire confiance. » Voilà. C'était un geste anodin que de laver les pieds à ses disciples. Bon, c'était pas d'une gravité, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Mais Pierre a eu une réaction et il dit non, certainement pas. Je ne veux pas aller plus loin. Parce que c'est peut-être à moi de te laver les pieds, mais c'est pas à toi de me laver les pieds parce que tu es le maître et moi je ne suis rien. Alors quelquefois ce sont nos attitudes qui braquent, qui bloquent. Et je voudrais vous dire, comme nous l'avons chanté, c'est pourquoi j'ai choisi à dessein le dernier cantique, « Tu fais pour nous des œuvres merveilleuses », parce que tout ça nous parle que Dieu fait des choses incompréhensibles. Je pense que vous n'avez pas compris tout le sens de la vie et de l'univers. On en est très très loin. Donc Dieu fait des choses incompréhensibles, mais vient toujours un temps, et je voudrais vous l'affirmer ce matin, vient toujours un temps où ces actions mystérieuses sont dévoilées et apparaissent et sont providentielles. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Peut-être que certains d'entre vous, vous traversez des moments difficiles de perplexité, un grand questionnement qui vous afflige et qui dit « Mais où j'en suis rendu ? Est-ce que je suis encore chrétien ?» Avec finalement ce que je vis, ce qui est autour de moi. Je voudrais vous dire que Dieu est en train de travailler dans le monde invisible sans que vous vous en aperceviez. Et ce travail se prépare au ciel, c'est pourquoi vous ne pouvez pas le voir sur la terre. Par contre, il est en train de le préparer pour vous le donner, pour vous faire rentrer dedans. Et ce qui est invisible ne peut pas avoir, autant que le plan de Dieu n'est pas réalisé, autant que les choses ne soient pas prêtes dans le ciel, elles ne peuvent pas finalement se réaliser sur la terre parce que Dieu veut la perfection. La perfection du ciel, il veut vous la donner en perfection et en bénédiction dans votre vie. Alors ce sont des choses qui quelquefois nous plongent dans le désarroi, dans le découragement. On se dit « Mais Seigneur, j'avais pensé que ça serait ainsi. J'avais cru que ça viendrait plus tôt. J'avais tellement demandé que les choses se fassent comme moi je les avais pensées, comme je les avais conçues. » Ce n'est pas pour rien que dans les attributs de Dieu, il est question de sa providence. Alors il y a son amour, il y a ses compassions, il y a sa bonté, mais il y a sa providence. Qu'est-ce que la providence de Dieu ? Eh bien, la providence de Dieu, c'est en quelque sorte le texte de Paul au chapitre 8 de Romains, où il nous est dit qu'il fait tout concourir. C'est la providence de Dieu. Et cela amène à bien penser, parce qu'il faut connaître la définition des mots que nous employons, et particulièrement les mots de la Bible, et du caractère même de Dieu, qui fait que la bonté, que les sentiments de perfection en amour et en compassion de Dieu vont concourir et vont se manifester en notre faveur. C'est ça la providence de Dieu. Et faut y croire. Faut y croire, parce qu'autrement nous allons devenir des chrétiens désespérés, comme beaucoup de gens qui se réclament du christianisme et qui n'ont aucune perspective. Devant les situations difficiles, ils se disent « Mais c'est le bon Dieu qui me punit. » Mais Dieu n'est jamais venu pour punir, il est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer les hommes, dans la mesure où nous avons cette compréhension de l'Esprit qui éclaire nos cœurs, et au lieu d'aller dans un sens de fuir Dieu ou de le redouter, eh bien cela va nous amener précisément à nous réfugier dans ses bras, et de lui dire « Mais tu es mon Père, notre Père qui es aux cieux, moi je suis sur la terre, mais du ciel tu peux me donner tout ce dont j'ai besoin. » Il y a cette parole de l'apôtre Paul, il les laisse, je le cite tout simplement dans Romains chapitre 11. Écoutez, vous l'avez certainement entendu, on l'aborde très peu souvent. C'est Paul qui dit cela, parce que Paul est émerveillé de savoir comment Dieu agit. Dans le visible, mais avant dans l'invisible. Écoutez bien, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, parce qu'il connaît tout. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Et Paul termina ce chapitre 11 en disant ceci, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il marque, il fonde, il instaure, Paul, à travers ses paroles, que finalement, eh bien, un enfant de Dieu ou les enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons rien à craindre. Et ça, il faut chasser ça de nos cœurs. Il y a trop de frères et de sœurs au milieu de nous, dans nos églises, qui sont là terrorisés. Mais est-ce que Jésus a été vainqueur à la croix? Est-ce que le diable n'a pas été vaincu? Et nous réagissons comme s'il était encore le diable. Eh bien, encore maître du monde et maître de notre vie. C'est faux. C'est faux. Alors, la réaction qui nous est salutaire, c'est au lieu de nous braquer devant ce que je ne comprends pas, devant ce que je ne connais pas encore, eh bien, il y a au moins trois vertus dans lesquelles nous devons rentrer, pénétrer et demander à Dieu. C'est la souplesse, c'est la patience et c'est la flexibilité. Je veux être souple entre tes mains, Seigneur. Je veux être flexible. Tu me dis d'aller dans ce sens, je vais aller dans ce sens. Même si quelque part ça contrarie mes pensées et ce que j'avais prévu. Mais Seigneur, tu sais où tu me conduis. Et l'attitude qui enveloppe tout cela, la flexibilité, la souplesse et la patience, ça s'appelle la foi. F-O-I. Tout simple. Je voudrais, avant d'aller un petit peu plus loin, vous donner quelques exemples des pourquoi de notre humanité. Les pourquoi de notre humanité, dont la réponse est celle-ci, tu le comprendras bientôt. Et je voudrais souligner une chose, c'est que nous avons tous des questions dans nos cœurs. Et ces questions, elles ont peut-être trait à notre histoire, à notre passé. C'est peut-être des questions d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'actualité. Je me pose telle question au moment là où j'entends ce message. Et puis il y a la grande inconnue, c'est l'avenir. Notre avenir, alors là, c'est... On est bien obligé de suivre le mouvement, en quelque sorte. Hein. Et Jésus dira à Pierre, « Tu le comprendras bientôt. » Mes frères et mes sœurs, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous départir de votre confiance en Dieu en ce qui concerne demain. Il y a tant de paroles et tant de promesses qui nous affirment, eh bien, qu'il va s'occuper de nous. À travers ces situations qui peuvent nous désarçonner, qui peuvent nous amener à un océan de pourquoi dans notre vie auquel nous sommes confrontés, ce peut être les contrariétés des retards. Eh oui, des retards inexpliqués. On a le sentiment quelquefois de ne pas être arrivé à l'heure ou au rendez-vous de Dieu. Je pense particulièrement à Jaïrus. Quand il est venu pour une situation urgente, parce que sa petite fille était pratiquement à mourir, elle était à l'extrémité, nous dit le texte de Marc, et que là, voilà une femme qui attendait depuis 12 ans qu'elle soit guérie, et voilà qu'elle se met en travers le chemin de Jésus, et elle va prendre tout son temps. Tout le temps de Jésus. Ce sont les contrariétés. Et les contrariétés que nous pouvons avoir pour les contretemps dans notre vie, eh bien, ne nous décourageons pas et ne nous mettons pas en colère surtout. Et ne nous en prenons pas à Dieu. Il y a parfois des changements de direction dans notre vie. Nous étions partis dans un sens et quelque part Dieu va intervenir pour nous faire aller dans un autre sens. C'est l'histoire de Paul. Quand il est parti pour évangéliser l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et qu'à un moment donné, par deux reprises, alors qu'il voulait aller dans telle ou telle province, je ne sais plus quelle province de l'Empire romain, et il nous est dit par deux fois que le Saint-Esprit ne lui permit pas, et pourtant Dieu l'avait envoyé pour évangéliser. Deux fois, Dieu l'a arrêté en route. C'est terrible ça. Eh bien, quelquefois, il y a des choses semblables. Un avion ou un train que l'on rate, et on se dit, c'est fini pour la journée. C'est fini pour mon contrat. C'est fini pour ceci et cela. Je n'aurai pas d'aboutissement dans cette voie parce que j'ai raté mon train, j'ai raté mon avion. Et vous savez que pour plusieurs, ça a été salutaire. S'ils sont encore vivants aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont raté quelquefois des rendez-vous. On en parlera. Ce sont les projets qui s'effondrent, que nous avons nourris pendant des années, que nous avons caressés et où nous faisons face à un échec apparent. Ouais. Vous savez, Lot, quand il a regardé dans la vallée, il se frottait les mains en disant « mon pauvre oncle Abraham, il peut rester sur sa montagne à garder ses brebis. Moi, je descends en bas parce que c'est vert, parce que c'est formidable, c'est extraordinaire. » Et il est descendu comme ça, lui et toute sa famille. Je peux vous dire que quand on regarde ce qui s'est passé, ses projets se sont effondrés. Et heureusement que ses projets se sont effondrés, parce que s'ils ne s'étaient pas effondrés, eh bien, il serait mort dans l'incendie ou dans le feu qui est descendu du ciel sur Sodome et Gomorre. On ne comprend pas. Il y a tous les incidents quotidiens, il peut y avoir les imprévus, les impondérables. Les impondérables, c'est Paul, qui contre sa volonté est emmené dans un bateau, à traverser la Méditerranée dans une saison où on ne navigue plus sur la mer, et qui là, à ce moment-là, va être embarqué de force, et nous voyons que, à cause d'une tempête, tout le monde risque de passer par-dessus bord. Eh bien, Dieu permit la tempête pour sauver 273 personnes. Seigneur, je ne comprends pas. Ce peut être également les méchancetés et les injustices d'autrui. Vous connaissez l'histoire de Sosthène, qui s'était opposé au christianisme. Et à un moment donné, la foule va se retourner contre lui, bien qu'il pensait que la foule était avec lui, et ils vont le bastonner. Et c'est à travers justement cette méchanceté finalement de ses compatriotes qu'à ce moment-là, il va découvrir que Jésus est son sauveur. Faut-il recevoir des coups pour se convertir C'est la question. Sosthène, il y a parfois des mises à l'écart injustifiées. Je pense à Paul quand il va être pendant des années dans les prisons, dans les geôles de l'Empire romain. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va pas pleurer. Il va pas dire tous les jours et à chaque minute, « Seigneur, pourquoi je suis là ?» Vous savez ce qu'il va faire? Il va écrire les merveilleuses épîtres qui constituent aujourd'hui le Nouveau Testament. Pourquoi, Seigneur, je suis là? Tu vas le comprendre bientôt. Et aujourd'hui, les écrits de Paul, ils sont arrivés, ils ont traversé 20 siècles d'histoire du christianisme. Et si le christianisme existe, c'est parce que Paul a été mis en prison. Pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas? Ce peut être la maladie qui nous afflige. Ce peut être des pertes diverses. Ce peut être l'hospitalisation qui a permis à des chrétiens de rendre témoignage à ceux ou à celles qui étaient à côté d'eux. Ça, on l'a entendu souvent, ça. Pourquoi je me retrouve à l'hôpital? Voilà. Il y a des choses qui sont étonnantes. Ce peut être, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un retard dans les transferts. Peut-être avez-vous entendu cette fameuse histoire, cette histoire qui a marqué le 11 septembre 2001 avec la chute des tours de New York. C'était un chrétien qui rend témoignage. Ce jour-là, il se rendait au travail dans les tours à New York. Et il y a eu un incident. Il n'a pas pu arriver à l'heure. Et au moment de, alors qu'il était dans le quartier, au moment où il allait justement pénétrer, les tours se sont effondrées. Sauvé! Parce qu'il ferait partie des 2900 personnes qui sont passées dans la, sous les tours. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce peut être plus récemment, puisque c'est vieux de 2 jours, ce professeur que j'ai entendu à la télévision, dans cette école primaire de Newton, dans le Connecticut, qui est sorti 5 minutes avant que le fou procède à la tuerie de tous ses enfants. Vous avez entendu parler, non? Et cet homme dit, mais je suis sorti 5 minutes avant qu'il arrive dans la classe. Et il pleurait parce qu'il y avait ses enfants qui étaient morts. Lui, il a été sauvé. Seigneur, je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors je donne ça à votre réflexion parce que Jésus nous dit, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Alors les pourquoi de la vie. Le premier pourquoi du monde. Genèse chapitre 3. L'instigateur et celui qui instille ça dans le cœur et dans la pensée des hommes, c'est le serpent. Pourquoi mangeriez-vous pas de tous les arbres du jardin? Pourquoi? Vous connaissez, hein? Ah, c'est élémentaire, ça. Cette parole qui arrive d'une manière subtile. Pourquoi vous ne mangerez pas de cet arbre-là? Dieu vous a dit, mais, vous savez, Dieu, il dit n'importe quoi, hein? Alors pourquoi? Et ça, c'est l'introduction du doute. Parce que derrière le pourquoi, il y a quand même un fameux doute. Hein? Un immense doute, un océan, un univers de doute. C'est un point d'interrogation dans le pourquoi. On met toujours après le mot pourquoi, interrogation. Et vous savez, ce point d'interrogation, il a une forme de serpent debout. Vous avez remarqué? On pourrait dire ça comme ça, c'est une image, hein? Mais vous en prenez comme vous voulez, hein? Les premiers pourquoi de Dieu, pourquoi de l'homme? Enfin, pourquoi du serpent qui a jeté, finalement, qui a fracturé, qui a brisé l'unité de la personnalité humaine. Alors le premier pourquoi de Dieu, d'abord il s'adresse à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? À l'homme, pourquoi te caches-tu? Pourquoi es-tu nu? C'est à partir de cette désobéissance, parce que cette désobéissance, elle revêt quand même le caractère d'indépendance. Je n'ai plus besoin de Dieu dans ma vie. Je peux faire sans lui. Il est invisible, alors moi je veux croire que ce que je vois, ça a toujours été naturellement. C'est une déclaration d'indépendance, avons-nous dit, et c'est à ce moment-là que les hommes ont commencé à se poser les pourquoi de la vie. Ah, la vie avait changé. Entre le premier chapitre et le deuxième chapitre de Genèse et le troisième chapitre qui est un abîme, parce que c'est un effondrement, c'est ce qu'on appelle la chute, alors les hommes se sont posés des pourquoi qui ne se posaient pas avant. Vous savez qu'on vivrait beaucoup plus heureux si on n'avait pas de pourquoi? Oh là là, c'est formidable. On ne sait pas comment ça se passerait parce qu'on ne peut pas l'imaginer. Puisque la réalité, c'est le pourquoi. On ne sait pas comment ça se passe. Je voudrais introduire rapidement maintenant un homme. Un homme qui a été certainement l'homme qui a posé le plus de pourquoi à Dieu. Vous avez deviné? Vous savez comment il s'appelle? En 3 lettres. Job. Ouais, Job. Alors lui, je peux vous dire, quand vous lisez son livre, 42 chapitres, me semble-t-il. Waouh ! C'est pratiquement, enfin, quand c'est dit, ou quand c'est déclaré, ou que c'est sous-entendu, c'est le livre où il y a le plus de pourquoi. Et ce n'est pas pour rien que les commentateurs de la Bible nous disent que le livre de Job, c'est certainement le premier et le plus ancien. Parce que, bon, dans la répartition et le classement dans la bibliothèque qu'est la Bible, ça serait certainement, eh bien, la première histoire qui aurait été écrite sur l'homme, Job. Alors, je vais vous en donner quelques-uns, et vous allez voir un petit peu pourquoi il se pose des questions. Et c'est les questions que nous nous posons encore aujourd'hui pour différentes raisons qui frappent et qui touchent notre vie. Ça commence de cette manière. Il s'adresse à Dieu. Ou il s'adresse à lui-même, mais en s'adressant à Dieu quand même. « Pourquoi ne suis-je pas mort dès ma naissance ?» C'est pour vous dire qu'il avait une vie heureuse. Hein. Il avait eu une vie heureuse. Et c'est encore plus cruel quand on peut faire la comparaison entre ce que nous avons connu de bonheur et quand nous sommes dans le malheur. Quand on n'a connu que le malheur, bon, c'est une chose, c'est déjà pas très drôle. Mais là, quand on peut faire la comparaison entre les deux, Parce que son bonheur à Job, c'était un bonheur de roi, c'était un bonheur royal. Chapitre 1er de son livre. Et après, il y a quand même 41 chapitres où ce n'est que du malheur. C'est le malheur des hommes. Job est typifié comme l'humanité en quelque sorte. Et ses souffrances. Oui, quand les choses sont tellement difficiles dans la vie, on se dit, mais pourquoi je suis né? Pourquoi je suis là? Ça sert à quoi? Quelles sont les raisons pourquoi je vis? Puisque je ne vis que des choses qui sont terribles et par comparaison à ceux qui vivent heureux, alors moi je me demande ce que je fais là. Question qu'il se pose. Il dit encore, pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre? Alors là, c'est une attaque contre Dieu. Pourquoi Dieu? Parce qu'on aurait mieux fait de rester dans les ténèbres de la non-existence. Enfin, on ne sait pas si c'était des ténèbres ou la lumière, mais on ne sait pas. Alors, pourquoi donne-t-il la lumière? La lumière, c'est la vie. Vous l'entendez de cette manière? On continue. Pourquoi me prend-il, en parlant de Dieu, pour son ennemi? Moi, je suis l'ami de Dieu, je ne suis pas son ennemi. Et tout ce qui m'arrive dans la vie, eh bien, c'est comme si les traits de destruction étaient dirigés vers moi. Quelquefois, nous nous disons, mais est-ce que Dieu est avec moi ou il est contre moi? Vous l'avez lu tout à l'heure, hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera? Puisque c'est Jésus-Christ qui justifie. Vous vous rendez compte de toutes ces questions que nous nous posons, que nous avons dans la tête, hein? Il me prend pour son ennemi. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Quand notre corps est en feu, physiquement, quand notre âme n'a plus aucun repère, je pense à l'angoisse, à l'anxiété, à la dépression, alors à ce moment-là, on se dit, mais je suis comme un chat huant dans le désert, cette citation de la Bible, hein, je vous le dis, c'est pour moi qui l'ai inventé, hein, mais voilà. Je suis perdu autour de moi et je suis perdu en moi, je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si vous l'avez constaté chez d'autres, mais c'est terrible la dépression nerveuse, hein. Oh, c'est affreux. C'est affreux, on ne sait plus qui on est. Job continue. Pourquoi les méchants vivent-ils? Ah, autre question. Ça serait si bien si tous les gens étaient gentils. Si tous les gens étaient bons. S'ils s'entraidaient. Grande question qui sera développée dans un autre livre qui s'appelle le livre des psaumes, le psaume 73. Mais pourquoi, Seigneur? Y a-t-il des Hitler? Pourquoi y a-t-il des dévastateurs? Pourquoi y a-t-il des tyrans? Pourquoi y a-t-il des despotes qui font souffrir leur peuple? Mais pourquoi? Alors, c'est pas seulement une histoire d'hier, c'est une histoire d'aujourd'hui, hein. Parce que vous savez, il y en a quand même, excusez-moi, mais une sacrée tripotée dans notre monde aujourd'hui, qu'on laisse faire. Qui sont en train d'écraser des enfants. Qui sont en train d'affamer des peuples. Seigneur, pourquoi les méchants vivent-ils? Autre question. Quand on voit les choses, les scènes comme ça, par les médias, on se dit, mais Seigneur, on bondit. Enfin, je ne sais pas, moi, je vois toujours bondissant. Quand je vois ça, je me dis, mais Seigneur, c'est une injustice. Et les bons, ils s'en vont, ils meurent. Alors, des gens qui sont innocents, qui n'ont rien fait, écrasés, piétinés. Job dit encore, pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps de réserve, des temps où dans la souffrance nous ayons quelquefois des petites éclaircies, des moments où nous puissions souffler un petit peu, que nous puissions respirer à travers, eh bien, tout cet ouragan, ce tsunami de souffrance. Seigneur, donne-moi quelques réserves, mets-moi à l'écart, donne-moi de souffler un peu. Pourquoi ceux qui le connaissent, c'est pour nous ça, ne le voient-ils pas? Seigneur, on aimerait tellement être réconforté en te voyant. Donne-moi une apparition, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Seigneur, ouvre un peu mes yeux. Ça me ferait tellement du bien. Pourquoi ceux qui le connaissent ne le voient-ils pas? Parce que Dieu est esprit et parce qu'il est invisible. Mais c'est pas parce qu'il est esprit que nous sommes de la chair, que nous sommes des êtres dans la visibilité, enveloppés naturellement dans le matérialisme. La matérialité, nous pourrions dire, c'est pas pour ça qu'il n'existe pas, Dieu. Il est là. Et nous voyons que les récriminations de Job, c'était la maladie, c'était l'injustice, c'était la mort, c'était le suicide. Ah oui, tentative, c'est quand il dit le premier mot que nous avons lu tout à l'heure, pourquoi est-ce que je vis? Ça augure quand même des tentations par la suite, et puis tous les dérèglements. Après les pourquoi de Job, Je voudrais vous dire que nous avons un sauveur qui n'a pas été exempt, finalement, du pourquoi. Et ça peut nous réconforter. Parce que celui que Dieu nous a donné pour nous sauver, c'est un Dieu qui est passé par où nous passons. Vous voulez en savoir quelques mots? Les pourquoi de Jésus, et les pourquoi de Jésus sont les réponses à nos pourquoi à nous. Alors, de différentes sortes, soit il les a posés à d'autres, à ses semblables, ou à ses concitoyens, ses contemporains, ou il les a posés lui-même à Dieu. Peut-être Jésus pourrait nous dire, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi? Parce que lui savait que de toute façon, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi vous inquiétez-vous? Quelqu'un peut-être est venu ce matin avec un cœur resserré par l'angoisse et par l'anxiété. Pourquoi vous inquiétez-vous? Alors vous allez me dire, bah oui, c'est bien, on entend les paroles, mais voilà. Devant les craintes, devant tout ce qui peut se passer dans notre vie. Jésus nous dit, mais pourquoi avez-vous peur? Est-ce qu'il y a une raison pour que vous ayez peur? Alors on va lui répondre, mais certainement, tout autour de moi, la tempête, tout ce qui se passe, l'incertitude du lendemain, la guerre et tout ce que nous entendons, vous rendez compte? Le 21 prochain, oh, il va se passer quelque chose, c'est la fin du monde. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, crédules que vous êtes pour le mensonge et que vous avez tellement du mal à accepter la vérité? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur, dit Jésus? Il pose la question. Pourquoi as-tu douté? Qui est le témoignage d'un manque de confiance? Pourquoi transgressez-vous le commandement des anciens? Ou les commandements plutôt de Dieu, excusez-moi. Qui est là la caractéristique de la désobéissance? Pourquoi me tentez-vous? Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton voisin? Ce sont les pourquoi de Jésus, hein. Et ça, c'est une mise en cause de l'esprit de critique qui peut être en nous. Et c'est un péché, je dois quand même le dire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est de l'hypocrisie. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir parce que je vous ai dit la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Ça, ce sont les pourquoi que Jésus a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et heureusement, il a exprimé à travers cette parole ce qui va nous sauver, vous vous rendez compte? Les disciples d'Emmaüs, dont vous connaissez les états de service, particulièrement les états de dépression, n'avaient pas compris qu'il fallait que Jésus soit crucifié, qu'il meure, pour que nous puissions, lui, par sa mort, nous ayons la vie. Et il dira à Jésus, dans ces moments terribles, à Gethsémané, et également à la croix de Golgotha, il dira, mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, c'est Jésus. Alors, à la question pourquoi, Dieu répond pour, trois petits points, quoi. Il y a une contraction du mot que nous utilisons, pourquoi. Mais Dieu dit pour quoi. Et nous revenons à ce que nous avons dit tout à l'heure, les causes, les buts, les intentions, les raisons, les objectifs. C'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon ses buts, selon ses plans. Et il nous a mis l'amour dedans. Parce que dans toutes les questions que nous pouvons avoir, il y a toujours cette part qui doit nous ramener en surface, c'est que Dieu nous aime. Il nous aime. Et si nous pensons qu'il ne nous aime pas, ben, ça va être difficile, hein. Si nous pensons qu'il est contre nous, ça va être très difficile, parce qu'il y a la notion de l'amour dans tout ce que nous avons lu dans les deux textes. Pour quoi? C'est-à-dire, quelles sont les intentions et les projets de Dieu pour chacun d'entre nous et là où il veut nous amener. Et à travers la question, ça nous amène à réfléchir. Et ça nous amène à réfléchir non pas d'une manière négative, mais d'une manière positive, à venir auprès de Dieu pour qu'il lui nous donne la réponse, si nous savons et si nous voulons nous laisser conduire en souplesse et en flexibilité, sans nous courber en disant « Seigneur, je n'irai pas plus loin parce que je comprends pas ». Or, le Seigneur nous apprend, à travers tous les récits de l'Évangile, que la foi, ce n'est pas de comprendre, c'est de croire. Et ensuite, à partir du moment où nous comprenons, nous croyons, alors à ce moment-là, nous allons comprendre pourquoi. C'est un canevas, en quelque sorte, hein, dont nous avons que la vision d'un canevas à l'envers. Et quand on regarde un canevas à l'envers, eh bien, on voit des fils qui s'en vont dans tous les sens. Mais quand il est fini, je peux vous dire que là, à ce moment-là, vous avez une visibilité d'un ouvrage qui peut être formidable et merveilleux. Et ça, c'est le talent, eh bien, de notre Dieu. C'est un sujet difficile à comprendre, hein, il faut le dire. Hein. C'est pour ça que la Bible est enseignée. C'est pour ça qu'il faut prêcher là-dessus. Parce que c'est tellement à l'opposé de nos conceptions personnelles, où nous sommes toujours avec ce réflexe « si je comprends, je croirai. Si je vois, nous dit Thomas, alors à ce moment-là, je croirai. » Or, Jésus nous dit « mais arrêtez avec vos prétentions de vouloir sentir, voir, écouter, toucher, goûter. On arrête avec ça. Maintenant, à la fois, c'est un sixième sens. Je dirais que c'est le premier des cinq autres. » C'est tout simplement de lui faire confiance dans l'invisible et sans preuve. Oh Seigneur, c'est terrible de te faire confiance, toi qui es que je ne vois pas et que tu me dis que je n'aurai pas de preuve. Si les preuves, nous allons les voir, mais il faut d'abord passer par l'épreuve avant d'avoir les preuves. Vous comprenez? Je fais des jeux de mots là, mais et c'est vrai que c'est une épreuve, mais qui va nous apporter les preuves de Dieu qu'il est réel. Il y a trois versets que nous avons lus dans Romains tout à l'heure, je voudrais simplement les relire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Le verset 32 nous dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Vous savez qu'il y a des trésors qui sont en réserve et qui nous attendent. Et Dieu est pressé de nous les donner. Et nous, dans notre souvent incrédulité, nous n'avons pas compris comment faire. Plus nous serons simples de cœur, plus Dieu va agir pour nous. Plus nous serons complexes, plus nous serons compliqués, plus nous essaierons de faire marcher nos matières grises. Bien que Dieu nous ait jamais demandé d'abdiquer notre intelligence, il nous a donné une intelligence, c'est pour nous en servir. C'est vrai, mais il faut que notre cœur agisse beaucoup plus que notre tête. Voilà. Alors, il nous donnera tout avec lui. Et puis, il y a ce très dernier verset, il est dit ceci. « Mais dans toutes ces choses, alors à ce moment-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça, justement, le secret de nos pourquoi humains et de toutes ces choses qui nous chavirent d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre. C'est terrible. Dieu veut notre bien. Il veut nous amener à la plénitude et il veut nous conduire à la victoire. C'est les trois versets que nous avons vus il y a un instant. Mais comment aimer un Dieu qui semble si lointain, sourd et absent? Et c'est dans l'épreuve que nous aurions tellement besoin de sa chaleur, de sa présence, qu'il nous parle, qu'il se montre, qu'il se lève. La réponse, c'est ce plan d'amour qui est résumé à travers ce verset que nous connaissons tous, c'est celui de Jean 3,16. Car Dieu a tant, tellement, vraiment, sincèrement, d'une manière infinie, il a tellement aimé le monde que nous sommes, que les hommes sont sur cette terre, qu'il a donné. Il y a là l'image d'un don. C'est pour ça que le salut est un salut par la grâce, c'est un salut par la foi, c'est un don. Qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est la foi, tout simplement, eh bien ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que souvent, il faut bien le dire, que la souffrance est un sujet de révolte. Et le plan de Dieu consiste à gagner la confiance et les cœurs des hommes. Dieu ne veut pas des adhérents. Il veut des hommes qui ont des convictions pour qu'ils parviennent à des certitudes et des assurances. Et je peux vous dire que quand on a des convictions, eh bien, on vit beaucoup mieux que d'être tantôt porté d'un côté, d'un autre. Moi, j'ai souvent rencontré des gens qui sont dans la décision permanente toute leur vie. Ils ont été comme ça. Ce sont des gens malheureux, ils ne savent pas. Ils écoutent à droite, ils écoutent à gauche. Et à chaque fois qu'il y en a un qui contredit le premier, ben, ils sont prêts à changer d'avis. Ils n'ont pas d'assurance et de conviction. C'est pourquoi ce sont des malheureux. Malheur à l'homme, nous dit Jérémie, qui met sa confiance dans l'homme, parce qu'il ne verra jamais arriver le bonheur. Et nous, nous sommes des hommes qui devons avoir des convictions, de vraies convictions, des saines convictions, pas des choses farfelues, mais des vraies convictions qui partent de la parole de Dieu que nous entendons et dont nous venons consommer très souvent, soit dans les cultes ou dans les réunions de prière ou dans les réunions d'évangélisation. C'est fait pour ça, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des passoires. Nous devons retenir. Vous savez ce que c'est qu'une passoire? Ça passe au travers, naturellement. Mais notre cœur ne doit pas être une passoire. Alors, tout cela, eh bien, justement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rien n'est au hasard. N'allez pas penser qu'il vous arrive quelque chose de particulier et qui vous attriste, et que c'est le produit d'une coïncidence ou d'un hasard. Ça n'existe pas avec le Seigneur. Les difficultés, les douleurs, les tourments de l'existence, pour celui qui croit, en d'autres termes, pour le chrétien, sont autant d'occasions pour prier, voire crier à Dieu, et d'exercer sa foi. Vous savez, un petit enfant, quand il apprend à marcher, il s'exerce, hein. Il va tomber plusieurs fois. Il se fait des bosses. Quelquefois, vous les voyez. Bon, on est tous passés par là. Mais est-ce qu'il va renoncer? Il voit ses parents, il voit son petit frère ou sa petite sœur qui est avant lui, qui trottine, qui court. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Il faut que vous exerciez votre foi d'une manière pratique, pour que votre foi grandisse, qu'elle s'affermisse, et un jour vous marcherez tout seul. Vous marcherez plus par la vue, mais vous marcherez par la foi. Et ça, c'est vraiment le grand challenge qui nous est laissé pour chacun d'entre nous. Lorsque jeté dans l'épreuve, le croyant met Dieu à l'épreuve, étant persuadé que Dieu ne l'abandonnera jamais. Il y a un beau texte dans l'Ancien Testament que je vous restitue tout simplement, vous le connaissez certainement, où il est question de cette parole qui nous est adressée aux uns et aux autres. Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, et comment ? En abondance. » C'est ça l'exercice de la foi. Et l'exercice de la foi, là où elle est la plus percutante, là où elle a la plus de validité, c'est justement lorsque nous sortons, que nous sommes dans le noir et dans la nuit et que nous regardons les étoiles. Vous vous souvenez? Parce que les étoiles ne peuvent être visibles que quand il fait noir. Alors Dieu nous dit, mais mettez-moi à l'épreuve, allez-y, vous verrez si je suis Dieu ou pas, si votre foi est valide ou pas. Alors, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Vous savez ce que c'est, hein? Quand vous voyez les écluses s'ouvrir, c'est un jaillissement, une précipitation de l'eau de la rivière qui vient dans le bassin, hein, qui est en train de, qui est vide et qui va se remplir d'une manière assez étonnante. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction et en abondance? Alors on a tous fait ce genre d'expérience. Mais Dieu nous demande ce matin de continuer à faire ce genre d'expérience. Et il nous y invite à faire cette expérience. Dieu ne nous abandonnera jamais. Je voudrais terminer par une histoire que j'avais déjà racontée, vous en souviendrez peut-être pour certains, mais je voudrais vous la raconter tout à nouveau pour ceux qui nous rejoignent. L'histoire qui vient relate une catastrophe survenue dans une exploitation minière, comme c'est arrivé tant de fois dans l'histoire industrielle. Au petit matin, une vingtaine de mineurs s'apprêtaient à descendre dans les profondeurs de la mine, c'est-à-dire dans le puits, et attendez le départ de la cabine. Ils sont quelquefois quelques dizaines, hein, parce que les mines, ça n'existe plus tellement chez nous, mais dans d'autres pays, c'est encore tout à fait d'actualité et en activité. Et il y avait parmi ces hommes, qui sont quand même réputés pour être des gens rudes, un mineur, voilà, on sait à peu près, parce que c'est un travail difficile. Il y avait parmi eux un ouvrier qui était chrétien, et continuellement, les mineurs se moquaient de lui et le chahutaient, et particulièrement viser sa foi en disant « T'es chrétien, mais pourquoi tu crois en Dieu ?» Mais ce sont des stupidités de croire en Dieu. Tu descends même avec ta Bible au fond, avec ta Bible au fond de la mine. Alors qu'est-ce que tu as besoin d'un bouquin comme ça? Surtout ce bouquin-là, c'était encore des bouquins pour te distraire, hein, bande dessinée ou autre chose. Mais la Bible, voilà. Alors on se moquait de lui, on le raillait devant tout le monde et c'était public. Hein. Et tout était fait pour ce pauvre chrétien, pour le ridiculiser. Alors pour marquer leur mépris, l'un d'eux avait tiré de son sac le déjeuner du chrétien, parce qu'il avait certainement son bandoulière hein, dans ce qu'on appelle une gibecière ou une musette, moi je ne sais pas, et juste au moment de rentrer dans la cabine, il a tiré le repas du chrétien et il l'a balancé sur le quai. Il s'en est aperçu, le chrétien, alors vous comprenez le mouvement. Celui-ci est sorti de la cabine rapidement et il est allé récupérer son bien. Et entre-temps, la cabine commençait à déjà partir. Lui, il n'était pas dedans, mais les autres étaient dedans. On parlait tout à l'heure de la méchanceté d'autrui, hein. Et vous savez, quelquefois, on ne comprend pas, mais ça a un sens. Alors, à ce moment-là, la cabine s'est enfoncée dans l'obscurité du puits, dans les profondeurs de la terre, en laissant le chrétien déconcerté sur le quai. Et il devait se dire, mais si le chef arrive, moi, je suis pas descendu avec les autres, et peut-être qu'il n'y a qu'une descente pour la journée, je vais être obligé de prendre un autre service. Enfin, c'était quelque chose. Et il allait naturellement manquer l'heure de la débauche et serait probablement, eh bien, sanctionné, puni peut-être même sévèrement. Tout à coup, alors qu'il était tout seul sur le quai, alors il a monté de la galerie des profondeurs un énorme grincement ou un bruit assourdissant et il n'était pas très difficile de deviner ce qui s'était passé. Les câbles de la cabine avaient cédé, les ouvriers à l'intérieur de celle-ci étaient tous écrasés quelques centaines de mètres plus bas. Et un bruit étouffé, quelques hurlements, ensuite le silence. Il n'y avait plus rien du tout. Un silence de mort qui voulait bien dire ce que ça voulait dire. Tous avaient disparu à jamais dans les entrailles de la terre. Malgré son humiliation, ce chrétien qui était resté en haut, Dieu avait épargné la vie de celui qui croyait en lui. Ce qui nous amène à dire cette parole que vous connaissez dans un psaume, je cite, psaume 34, verset 8, souvenez-vous-en, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. On appelle ça une christophanie, apparition de l'ange de Dieu. Il campe autour de ceux qui le craignent. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi la méchanceté? Pourquoi les injustices? Pourquoi on me fait ceci et cela? C'est une illustration, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle, quand même, elle parle. Elle parle. C'est comme cet homme qui est sorti de la classe avant-hier de cette école aux États-Unis, 5 minutes avant la tuerie. Seigneur, Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous donner toutes choses avec lui. Alors pourquoi vous inquiétez? Pourquoi nous faisons-nous du souci? Pourquoi nous rendons-nous malades avec des questions dont, quelquefois, dans leur sens, eh bien, n'existent pas? Vous savez, on se fait quelquefois très peur soi-même. Hein, on se fait peur. Rien de ce qui est utile et nécessaire ne nous sera enlevé. Oui, à commencer par notre vie. Dieu veille sur nous. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça me fait penser, peut-être en extrapolant un petit peu, vous m'en excuserez, mais ça me fait penser à ce que Jésus disait à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est son amour, sa compassion, c'est cette providence dont nous sommes les bénéficiaires les uns et les autres, si tu connaissais le don de Dieu. Si vous ne connaissez pas parmi nous, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le don de Dieu, ce don est infini, il est parfait, il est merveilleux. C'est un don d'amour, naturel. Parce que sa volonté est illimitée pour satisfaire à tous nos besoins. Alors, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous dit le texte que nous avons ouvert. et le triomphe, c'est de se savoir, cette victoire, c'est de se savoir aimé, de se savoir appelé, de se savoir justifié, sauvé, par-delà toutes les situations, sans explication. Mettez votre confiance en Dieu. Et je termine par un dernier verset qui va terminer notre, qui va conclure notre, simplement notre méditation. C'est dans Ésaïe chapitre 41, verset 9, où il est dit ceci. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et comme le Seigneur est un Dieu qui parcourt la terre entière, alors les extrémités, ça peut être Saint-Nazaire, où vous êtes, hein? Comme ça pourrait être la Chine ou l'Australie ou d'une manière ou d'une autre. Alors, toi que j'ai pris, parce que Dieu nous a appelés. Tous les hommes sont appelés. Ils répondent ou non, mais ils sont appelés. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis, je ne te rejette point. Loin de votre pensée de vous, de croire que Dieu vous rejette, même quand les choses vont mal. Même lorsque vous êtes là, dans la nuit, vous êtes dans le noir, Dieu ne vous rejette jamais. Vous allez me dire, mais j'ai péché cette semaine. Eh bien, vous n'êtes pas tout seul. Ça vous console ? Autant que nous sommes, nous restons des hommes pécheurs, mais nous vivons dans la grâce, et nous sommes à la faveur de son amour. Alors on arrête avec ça. Ou alors quelqu'un vient me voir après le culte et me dit, moi, ça fait 3 mois que j'ai pas péché. Ouah. Alors là, je vous mets tout de suite sur en première page sur Internet. Et vous allez avoir du succès. Hein. Alors, je ne te rejette pas. Et vous vous dites, mais Dieu me rejette. Eh bien, c'est faux, c'est un mensonge de l'adversaire. Croyez plutôt à la vérité que Jésus nous dit, au lieu de croire au mensonge. Je ne te rejette pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Tu ne le vois pas, tu ne me vois pas, mais je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce et on va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, je veux te rendre grâce et je te remercie parce que nous sommes des hommes sur la terre et toi tu es au ciel. Seigneur, il y a bien des choses que je ne comprends pas. Il y a bien des choses que je suis amené à vivre et qui me dépassent. Il y a bien des situations dans ma vie que j'essaie de maîtriser, que j'essaie de contrôler et qui m'échappent. Il y a bien des situations, Seigneur, en effet, qui sont au-delà de mes moyens. Oui, Seigneur. Mais une chose que je sais maintenant, que tu m'as rappelé ce matin, c'est qu'en effet, eh bien, je ne veux pas que mes questions, mes questionnements, mes perplexités, et toutes ces choses, Seigneur, qui font fonctionner, Seigneur, en effet, quelquefois à plein régime, eh bien, cette nature humaine de mes pensées, de ma conscience, de tout ce qui fait partie de mon âme, qui neutralise souvent ma volonté pour le bien, pour la justice, pour la vérité, eh bien, tout cela, Père éternel, peut être stoppé, arrêté, et me rend malheureux, profondément malheureux. Seigneur, tu nous as demandé de croire de tout notre cœur. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous as donné cette part d'intelligence pour comprendre ce qui était dit. Au moins, la langue dans laquelle nous nous sommes exprimés ce matin, et ça, tu ne veux pas que nous abdiquions parce que nous l'avons entendu. Mais par-delà, en effet, Seigneur, une compréhension intellectuelle et cérébrale, il y a quelque chose qui doit descendre au fond de notre cœur. Parce que la foi du cœur, c'est elle qui nous sauve. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. La vie nous enseigne. La vie est une école. La vie est un exercice permanent pour faire agir notre foi. Et nous te bénissons et nous te remercions parce que nous croyons que si nous sommes venus, Seigneur, à la naissance, si nous sommes venus sur la terre, c'est pour que nous puissions, Père éternel, rentrer dans une autre dimension où là, dans le ciel, nous ne marcherons pas par la vue. Nous marcherons pas par la foi comme sur la terre, mais nous marcherons par la vue parce que nous verrons Jésus face à face et son royaume. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Peut-être quelqu'un est-il venu avec des questions. Il a été tourmenté peut-être cette semaine, dans les semaines précédentes, avec quelque chose de récurrent qui l'a rendu malade, qui l'a tourmenté, qui l'a empêché de dormir. Eh bien Seigneur, je te demande que tu lui donnes la réponse aujourd'hui, Seigneur. Oui, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Tu vas le comprendre vite, hein. Alors merci Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité, parce que je sais que quoi qu'il arrive, toute chose concourt à mon bien, et à mon épanouissement et à mon salut. Merci Seigneur, pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen.
pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.